Messieurs, mesdames, bonsoir et merci pour la fidélité au programme du studio Kalangou. Voici le journal de ce 14 septembre 2021. Les habitants d'Avlit privés d'électricité depuis environ une semaine ne savent plus où donner de la tête. La ville est plongée dans le noir suite à la chute de certains pylônes. À suivre les avis de quelques habitants dans la cité minière. À suivre également dans ce journal les réactions de quelques citoyens de Gaya sur les réalisations du nouveau maire 5 jours après son installation. À découvrir en partie magazine l'association religieuse du Nigeria, Nairek, qui œuvre pour le rapprochement inter- et intra-religieux. Hawa Momana au micro. Depuis près d'une semaine, la ville d'Avlit dans la région d'Agadez est plongée dans le noir. La chute de certains pylônes vers Tirezerine serait à la base de cette coupure d'électricité prolongée. Ousmane Oumarou, notre correspondant à Avlit, a promené son micro dans la ville. Voici la réaction de quelques citoyens.
Ici, Arlit, quand il n'y a pas d'électricité, eh bien, la vie est morose. La situation est tellement arrivée à son pic où même l'accès à l'eau potable est devenu crucial, particulièrement dans les quartiers périphériques. Il va falloir venir au centre-ville pour chercher de l'eau. Ici, Arlit, toute la vie économique est liée à l'électricité. Depuis cette coupure, le morceau de glace coûte 400 francs CFA. Quelle surenchère!
Plus de 90% des activités dépendent de l'électricité. La société nigérienne d'électricité doit prévoir d'autres alternatives pour permettre à la population de bien mener leur activité, même au cas où ce genre de problème survient.
On est dans une mauvaise situation pour quelqu'un qui a en charge plus de 40 personnes et qui fait 6 jours sans électricité. Dans quelle situation va-t-il se retrouver?
Cela fait 5 jours que nous vivons dans des difficultés par manque d'électricité. À cause de ce problème, l'économie du département d'Arlit a considérablement baissé de façon étonnante.
Les maires élus et installés au Niger ont pour certains 100 jours de gouvernance dans ce mois de septembre, une occasion de voir avec ces maires comment ils appréhendent leur travail et les réalisations effectuées. Suivons le maire de la commune de Gaya, Bourema Moukela, au micro de Fadel Adou.
Premièrement, nous avons engagé des opérations de salubrité et d'évacuation des ordures ménagères, des déchets solides, des déchets plastiques. Nous avons procédé au curage des caniveaux en cette période hivernale. Nous avons toujours traité des points d'attente, c'est-à-dire les courries critiques dans la ville, à travers la pose des melons et de la territe. Nous avions aussi engagé des réformes dans le recouvrement de nos taxes. Et Dieu merci, avec ces réformes-là, aujourd'hui, nos recettes sont multipliées par 5. Nous sommes parvenus à payer 3 mois de salaire plein. Nous avons rétabli la fourniture d'électricité à la mairie. 8 mois, il n'y avait pas cette électricité. Nous sommes en train d'appuyer la police municipale pour maîtriser l'insécurité résiduelle, les petits vols nocturnes.
Notre correspondant a recueilli l'avis des citoyens de la ville de Gaya qui donnent leurs appréciations sur les réalisations effectuées dans la ville durant les 100 jours du nouveau maire. On les écoute au micro de Fadel Alou.
Nous constatons un grand changement dans notre ville. Il y a toujours des travaux d'entretien des voies. En plus, la mairie elle-même a été rétapée. Il y a de l'électricité et les agents sont actifs et accueillants. Donc, Dieu merci, notre ville est devenue agréable.
Nous ne voyons aucun changement parce que les voies qui doivent être colmatées pour faciliter la circulation ne le sont pas jusqu'à présent. Il y a aussi des passages d'eau qui n'ont pas été restaurés.
Il y a une différence par rapport à l'ancienne équipe. Par exemple, l'équipe précédente n'a même pas pu payer leurs agents pour balayer les routes. Mais actuellement, les caniveaux sont curés, les dépotoirs enlevés et plusieurs places aménagées. C'est bien. Nous souhaitons qu'on nous arrange les ravins.
Au Niger, dans la région de Tillabéri, les enfants sont au cœur des violences terroristes. Ce sont les conclusions d'un rapport publié lundi 13 septembre par l'ONG Amnesty International. Parmi les points abordés par le rapport de l'ONG, la situation de l'école considérée par les groupes armés non étatiques comme une importation occidentale. En juin, l'ONG dénombre 377 écoles fermées dans la région, soit près de 32 000 élèves déscolarisés. Ousmane Diallo Diallo, chercheur pour Amnesty International à Dakar, joint au téléphone par Mokhtar Amadou.
Ils jugent l'école occidentale comme contre leur système de valeurs, comme quelque chose qui est imposé par l'Occident et quelque chose qui va à l'encontre des croyances traditionnelles islamiques dans la région de Tillabéri. Et c'est pour cela qu'ils attaquent l'école, donc, mais aussi contre le personnel enseignant et des fois contre les élèves et les interdictions assez fermes qui sont données aux communautés rurales de ne pas envoyer les enfants à l'école occidentale. Les attaques contre les centres de santé sont beaucoup plus opportunistes, donc c'est des attaques qui visent à enrayer toute présence de l'État au sein de ces communautés rurales-là. Mais ce sont des attaques aussi qui permettent à ces groupes armés-là de s'approvisionner en termes de médicaments et de ressources médicales. Et de manière beaucoup plus pernicieuse, ils utilisent les structures logistiques de ces centres de santé-là, comme les véhicules ou bien les ambulances, pour faire des attaques contre les positions des forces de défense et de sécurité dans la zone des trois frontières, ce qui est une violation grave du droit international humanitaire.
Le Niger est à cheval entre le Maghreb et l'Afrique au sud du Sahara. Sa position fait de lui un pays de transit pour la migration. La région d'Agadez est la partie du pays où les migrants en partance pour l'Afrique du Nord ou l'Europe sont obligés de séjourner. Selon la chercheure Florence Bauer de l'Institut de recherche pour le développement IRD, la migration a pris de l'importance dans le flux migratoire international à partir de 2010. Elle est interrogée par Talata Abdou Bahar.
Le Niger a pris l'importance à partir du début des années 2010 en termes de transit. C'est aussi en lien avec la fermeture de deux autres routes migratoires de transit. Donc d'une part la route mauritanienne-marocaine, en lien avec tout un ensemble de dispositifs de contrôle, police, d'arrestation, etc. Et d'autre part le déclenchement du conflit en 2012 au Mali. Le Mali, bon, qui a exactement la même configuration que le Niger, les villes de Gao, Tombouctou, Kidal, etc. étaient des villes de transit comme les Agadez au Niger, et le déclenchement du conflit a mis fin à ce transit, du transit qui arrivait chaque mois dans la ville d'Agadez, mais dont l'objectif était de continuer la route essentiellement vers la Libye. Alors, soit pour travailler en Libye, c'est-à-dire une bonne partie de ces personnes qui passaient par Agadez avaient pour objectif de rester en Libye et de travailler en Libye. Et une autre partie, plus réduite, avait pour objectif donc de continuer la route finalement, et donc traverser la Libye et la Méditerranée pour se rendre en Europe.
En lien avec la migration, ECAP Sahel, en collaboration avec le tribunal d'Agadez, a initié une rencontre de sensibilisation samedi et dimanche avec les chauffeurs des migrants sur leurs obligations légales de vérification des documents de voyage, cela pour lutter contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Léna Hélène Becker, conseillère pour la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants à ECAP Sahel d'Agadez, elle est au micro de Moussa Moman.
Le but de cette rencontre, c'est d'abord déjà de sensibiliser les transporteurs commerciaux par rapport à leur obligation légale de vérification des documents avant de transporter une personne, ce qui est vraiment important, non seulement pour pouvoir identifier les potentielles victimes de la traite des personnes, pour pouvoir les protéger, prévenir qu'ils ne tombent dans les pièges d'exploitation, que ce soit ici au Niger ou à l'étranger, notamment la Libye. Mais c'est aussi pour sensibiliser le transporteur de mieux collaborer avec les FTS pour faire remonter des informations qui permettront aux FTS d'intervenir au moment venu pour la protection des potentielles victimes et des migrants.
Installation d'une unité de production d'oxygène de 24 bouteilles par jour au profit du centre hospitalier régional d'Agadez dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Cette unité est financée par l'Union européenne à travers la coopération belge. Amani Mustapha, expert en management des équipements médicaux à la coopération belge, explique au micro d'Anissé Karim.
On a doté le CHR d'Agadez d'une unité de production d'oxygène qui a une capacité de production de 24 bouteilles d'oxygène par jour afin de subvenir aux besoins dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Nous avons doté aussi l'hôpital régional d'Agadez avec une ambulance médicalisée, bonne dizaine de bouteilles d'oxygène pour accompagner la production de cet oxygène. La centrale est suivie d'un certain nombre de bouteilles pour le conditionnement de l'oxygène qui sera produit. En plus de cela aussi, il y a l'installation de deux centrales de distribution d'oxygène. Donc cette centrale de production d'oxygène est aussi accompagnée d'un groupe électrogène puissant de 400 kVA, d'avoir une source d'énergie secondaire, même en cas de coupure, de permettre à l'hôpital d'avoir une production constante. Nous avons aussi doté l'hôpital des respirateurs de réanimation, donc qui permettent de garder le malade qui a des insuffisances respiratoires.
Maradi abrite depuis samedi jusqu'au dimanche 19 septembre la phase finale du championnat national de football féminin. Quatre régions, Zender, Agadez, Dosso et Niamey, prennent part à la compétition. Pour Lawaldi Garba de la direction des compétitions à la Fédération nigérienne de football Fedifoot, il s'agit de développer le football féminin et de sensibiliser les parents sur l'importance de laisser leurs filles jouer au football. Il est au micro de Mohamed Mamman.
Pour ne pas rester en marge aussi des autres nations, le Niger s'est inscrit dans cette optique de développer la pratique au niveau du football féminin. C'est dans ce contexte que nous avons initié ce championnat de football féminin qui comporte deux phases, une phase éliminatoire et une phase finale. Aujourd'hui, nous sommes à la phase finale. La phase éliminatoire, c'était deux poules, une poule de 8 et une poule de 7. Et nous avons pris les trois premières équipes au niveau de chaque poule pour constituer la phase finale. L'objectif étant bien entendu, comme on le dit, de permettre aux filles de s'épanouir à travers la pratique du football, mais aussi de développer, n'est-ce pas, cette pratique au niveau de toutes les régions du pays. Nous avons enregistré l'inscription de quatre régions, à savoir Zender, Agadez, Dosso et Niamey.
Nous arrivons à la partie magazine de ce journal. Nairek est une association religieuse du Nigeria basée à Kaduna qui réunit chrétiens et musulmans. Elle lutte contre les problèmes inter- et intra-religieux. L'association apporte aussi sa contribution en matière de soutien et de cohésion sociale aux femmes et aux enfants, notamment dans les zones d'insécurité. Hajia Amina Kazaouré est membre de cette association. Elle explique le fonctionnement de celle-ci au micro de Hawa Ousmane.
En tant que femme membre de l'association Narek qui regroupe les musulmans et les chrétiens pour la paix et la stabilité, quel est votre rôle au sein de la dite association?
Notre contribution, c'est la sensibilisation des femmes, parce que quand la plupart des problèmes surviennent, les hommes vaquent à leurs occupations alors que les femmes ne savent même pas ce qui se passe. Il est donc normal de faire participer les femmes dans toutes les démarches à suivre pour la paix, parce qu'elles sont quand même les mères de foyer et ce sont elles qui éduquent les enfants. Des fois, c'est un petit malentendu qui peut conduire à un conflit entre les femmes. Deuxièmement, la raison pour laquelle nous voulons sensibiliser les femmes, c'est qu'elles vivent toutes les mêmes situations, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Par exemple, si les hommes sont tués lors d'un conflit, ce sont les hommes musulmans et chrétiens qui seront tués et ce sont les femmes qui vont souffrir après. Quand tu vas à l'hôpital, tu ne vas pas dire que tu veux un médecin musulman ou chrétien selon ta religion. Donc si on regarde bien, nous vivons toutes les mêmes situations dans la vie. C'est pour ça qu'on fait des efforts pour sensibiliser les femmes, qu'elles puissent avoir des connaissances sur la religion d'abord et ce que la religion dit sur la paix. Il ne faut pas qu'on les utilise et leur crée des problèmes qui vont engendrer d'autres problèmes.
Ces derniers temps, on assiste à une situation d'insécurité dans la sous-région et le plus souvent, ce sont les femmes et les enfants qui sont les principales victimes. Quelles sont les actions que vous menez pour sensibiliser ces dernières face à ce phénomène?
On leur organise des séances de sensibilisation sur la paix. On leur apprend aussi à s'occuper de certaines choses pour qu'elles comprennent qu'un problème peut survenir. Parfois, tu peux voir des organisations de 4 à 5 personnes de la ville faisant ceci et cela. C'est qu'il y a forcément quelque chose. Même concernant les enfants, qu'elles comprennent quand leur enfant commence à changer. Quel comportement inhabituel l'enfant a qui nécessite une attention. Ensuite, on leur apprend à faire le commerce pour subvenir à leurs besoins. Parce que si les hommes et les grands-enfants de la maison sont tués, les charges reviennent à la femme. Donc, si elle n'a pas un petit commerce, elle peut se retrouver dans une situation difficile. C'est pour ça qu'on fournit des efforts pour que les femmes puissent faire du commerce, pour qu'elles s'autonomisent et pour qu'elles puissent participer aux prises de décision.
Et c'est la fin de ce journal. À suivre le forum, le non-respect du calendrier vaccinal, quel impact sur la santé de l'enfant? Présentation Samira Rouafi.